Gloire à Dieu. Alors, dans le premier culte, j'ai partagé avec l'Église, vous pourrez le suivre si vous le souhaitez sur Internet. Donc, j'ai partagé un texte, un Chronique, chapitre 17, et je suis allé avec l'Église dans la vision de Nathan, que Nathan a communiqué à David lorsque celui-ci a eu à cœur de bâtir le royaume, de bâtir la maison du Seigneur. Et on a vu que Dieu a toujours voulu paître son troupeau. Il a pour cela, bien entendu, trouvé David. Mais avant David, il y a eu d'autres leaders en Israël. Et on disait que, de toute manière, nous avons notre souverain pasteur des brebis, Jésus, qui paie son Église, qui la nourrit, qui la conduit et qui la défend. Et puis, j'ai parlé aussi de l'attitude du cœur de David, qui dira « Mais qui suis-je, Seigneur ?» Puisque David a été utilisé, choisi par Dieu, et Dieu a eu pour sa vie des projets formidables, des desseins particuliers, un plan particulier, et on a vu l'importance d'être humble pour pouvoir être utilisé par le Seigneur. J'aimerais aller un petit peu plus loin, si vous le voulez bien, dans le même chapitre des Chroniques, au chapitre 17, 1 Chronique, chapitre 17, et nous allons lire la suite où on s'est arrêté, en fait, on s'est arrêté au verset 16 au premier culte, et là nous allons aller au verset 17e, et on va faire la lecture. 1 Chronique, chapitre 17, 1 Chronique, chapitre 17, verset 17. Et nous lisons ceci. Donc David s'est exprimé en disant « Qui suis-je ?» etc. « C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. » Puisque David voulait bâtir, et Dieu lui dira « Ça va être Salomon ton fils qui va bâtir ma maison. » Et il dit « Et tu daignes porter les regards sur moi, la manière des hommes. Toi qui es élevé, éternel Dieu, que pourrait te dire encore David sur la gloire accordée à ton serviteur ?» Tu connais ton serviteur, ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur et selon ton cœur que tu as fait toutes ces grandes choses pour les lui révéler. Ô Éternel, nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi. D'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte. Tu as établi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agis selon ta parole. Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël » et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi, maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen. Je vais prier afin que le Seigneur bénisse cette méditation de sa parole. Seigneur, merci pour ta parole, elle est la vérité. Merci parce que ta parole est lumière. Seigneur, sans la révélation de ta parole qui est claire, nous sommes dépourvus, Seigneur, de direction, dépourvus de lumière, dépourvus de connaissances, dépourvus même de réflexion. Seigneur, nous avons besoin de la révélation de ta parole qui est claire. Nous avons besoin, Seigneur, que tu souffles ton Saint-Esprit sur ces mots, Seigneur, afin que chacun, chacune d'entre nous, nous soyons édifiés, bénis par les bienfaits de ta parole. Merci parce qu'elle ne retourne pas à toi sans effet et elle est bonne pour nos cœurs, elle est bonne pour nos âmes et nous te disons à toi la gloire, notre Dieu, notre Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, dans ce chapitre jusqu'au verset 16, c'est au verset 15, c'est la révélation de Nathan que Nathan va aller donner, communiquer, apporter à David. Et à partir du verset 16 jusqu'au verset 27, comme nous venons de le lire, c'est David qui va en retour s'exprimer, comme il le dit ici, oser prier, oser parler au Seigneur. Et dans sa prière, il va eh bien, manifester, révéler un certain nombre de choses. Il dira « C'est peu de choses à tes yeux, ô Dieu. Tu parles de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. » Il y a une parole qui revient souvent dans la bouche de David ici que nous avons lu. Au moins 8 fois, au verset 17, au verset 18, au verset 19, au verset 23, au verset 24, 25, 26, 27. À plusieurs reprises, David exprime un caractère. Il exprime ce qu'il est à ses yeux devant Dieu. Il dit, tu parles de la maison de ton serviteur. Que pourrait encore David sur la gloire accordée à ton serviteur? Tu connais ton serviteur. Ô Éternel, c'est à cause de ton serviteur. Et à plusieurs reprises comme cela, tout au long de sa prière, il se nomme, il s'identifie comme étant un serviteur de Dieu. J'ai terminé tout à l'heure en parlant de l'humilité de David. Et David se positionne devant le Seigneur comme étant un serviteur de Dieu. Je ne sais pas comment ce matin vous vous positionnez devant Dieu, mais je trouve que de se nommer comme étant un serviteur ou une servante de l'Éternel, du Seigneur, c'est une bonne chose. Alléluia. Nous sommes tous et toutes appelés à servir le Seigneur. Nous sommes tous et toutes appelés, en fonction des talents que sont les nôtres, à mettre à disposition nos vies au service du Seigneur. Alléluia. Alors, nous sommes des serviteurs du Seigneur. Alléluia. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Bien sûr, on est amis, on est enfants de Dieu, mais on est serviteurs de Dieu. Voyez, c'est important de le réaliser. Même l'apôtre Paul, le grand serviteur de Dieu, la Bible dit qu'il se présentait comme un simple serviteur. Jésus sur la terre est venu comme un serviteur du Seigneur. Et c'est, frères et sœurs, ce que nous sommes ce matin, des serviteurs et des servantes de Dieu. Et nous voulons servir le Seigneur dans notre génération comme il faut. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous aimez servir. Des fois, on préfère être servi. Mais en tout cas, David était un serviteur de Dieu. David était conscient que le regard du Seigneur était sur lui, sur son serviteur. David était conscient qu'il était connu de Dieu. D'ailleurs, cette révélation, cette pensée, cette révélation de Dieu va lui faire prendre conscience finalement que rien n'est caché. Et David va, dans cette prière, eh bien, raconter, si vous voulez, ce qu'il avait entendu de ses oreilles et ce que le Seigneur avait accompli pour son peuple. Parce que si David était le serviteur du Seigneur, le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Et David rappellera l'histoire, un peu l'historique du peuple de Dieu en disant que Dieu est venu racheter pour former son peuple, se faire un nom et accomplir des miracles et des prodiges en chassant des nations devant son peuple qu'il a racheté de l'Égypte. Est-ce que vous croyez, frères et sœurs, dans les miracles et les prodiges? Vous savez, David, en fait, dans la parole de Dieu, rien n'est écrit au hasard. Il n'y a pas de choses qui sont écrites comme ça. Et David était un homme loin du Seigneur. Et les paroles que disait David, c'était un berger, le berger d'Israël. David et nourrissait le troupeau, enseignait le troupeau, il enseignait les voies du Seigneur à Israël. Et David avait une parole ointe, avait une prédication ointe. Mais vous voyez, avant d'avoir des prédications ointes, il faut avoir une vie de prière ointe. En fait, un chrétien, un croyant, un homme selon le cœur de Dieu, c'est un homme aussi qui se tient sur ses genoux. C'est un homme de prière. Quelqu'un a dit, avant de pouvoir parler de Dieu, il faut parler avec Dieu. Et David parlait avec Dieu. En fait, David va entendre Dieu lui parler par le prophète Nathan. C'est très intéressant, cette révélation qu'on a partagée au premier culte. Mais David était aussi un homme qui a parlé au Seigneur, qui a parlé à Dieu et qui a dit des choses, bien entendu, intéressantes. Et dans sa prière, David rappelle ceci, c'est que Dieu, pour se faire un nom, a accompli des miracles et des prodiges. Lorsque Dieu est allé en Égypte avec Moïse, Moïse n'est pas allé simplement avec un petit bâton, hein. Il est allé avec la puissance de Dieu. Il est allé avec des signes, des miracles et des prodiges. Alors, je ne sais pas ce matin, est-ce que vous croyez aux miracles ? Oui ? Est-ce que vous croyez au Dieu des miracles ? Vous savez, il y a des gens qui pensent que le temps des miracles est passé. Il y a des personnes qui pensent que le temps des miracles est passé, mais en fait, le temps des miracles ne peut pas passer. Parce que la Bible dit dans Hébreu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus ne change pas. En fait, depuis le livre de la Genèse jusque dans l'Apocalypse, il y a de partout des miracles. Même Abraham, le père de la foi, en priant pour un certain monsieur qui était tombé malade parce qu'il était prophète, a amené la guérison miraculeuse dans cette maison. Les miracles, en fait, sont partout dans la parole de Dieu. Et je crois que c'est important que non seulement nous le réalisions, mais que nous le vivions en tant qu'Église. Je ne sais pas si vous avez envie de voir des miracles. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, la Bible dit qu'il n'a fait aucun miracle tant que le Saint-Esprit n'était pas venu sur lui. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit est descendu sur lui le jour de son baptême, qu'il a traversé le désert 40 jours, il a tordu le cou à Satan, et la parole de Dieu nous dit qu'ensuite il a fait un miracle. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi le premier miracle de Jésus ? C'est la transformation de l'eau en vin. Alors les Français, ils aiment bien ce miracle, parce que les Français aiment bien picoler. Mais je vous rappelle ceci, c'est que la Bible dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint. » Oui, le Saint-Esprit veut nous remplir. Mais Jésus a opéré des miracles. La Bible dit que Jésus a fait tellement de miracles, il a fait tellement de choses glorieuses que tous les livres, c'est une image bien entendu de la terre, ne pourraient contenir tous les miracles que Jésus a opérés. Dans la Bible, en fait, on a simplement quelques miracles qui ont été relatés pour nous exhorter, nous encourager. Pourquoi ? Parce que les miracles, ça stimule notre foi. Frères et sœurs, si par exemple, vous savez que Jésus guérit les sourds et les muets, vous savez ça ? Quand on impose les mains aux malades, la Bible dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... » Voilà, c'est ça, il faut une condition en fait. La condition sine qua non pour qu'il y ait des miracles dans ta vie, c'est qu'il y ait de la foi. Quand Jésus voit la foi, il opère des miracles. Quand il y a de l'incrédulité, du scepticisme, Jésus est bloqué. Vous savez, à un moment donné, Jésus à Nazareth, la Bible dit qu'il ne put faire là aucun miracle. Pourquoi ? Parce que les cœurs étaient remplis d'incrédulité. Et c'est important qu'il y ait de la foi dans notre cœur. C'est important qu'il y ait du désir pour le Seigneur dans notre cœur. C'est important que quand on vienne le dimanche soir et qu'on prêche Jésus, c'est important que l'on croit que Jésus confirme sa parole par des miracles et des prodiges. Alléluia ! Est-ce que tu crois que Jésus veut confirmer sa parole dans ta vie, aujourd'hui ? Est-ce que tu as besoin d'un miracle ? Vous savez, le plus grand miracle, c'est la réconciliation avec le Seigneur. Le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Le plus grand miracle, c'est quand on est passé de la mort à la vie et des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et je déclare dans ce lieu que le ciel est ouvert. Je déclare dans ce lieu que Jésus fait encore des miracles. Jésus fera encore des miracles pour guérir, délivrer, libérer. Que le nom de Jésus soit béni. Est-ce que je suis le seul qui suis enthousiaste par la vérité qui dit que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui, quel que soit ton Égypte, quel que soit ton problème, quel que soit ton passé, Jésus libère, alléluia. Ouais. Jésus libère, amen. En fait, si nous sommes l'église des actes des apôtres, la Bible dit ceci, que non seulement Dieu, c'est le Dieu des miracles et des prodiges, nous l'avons lu ici par la bouche de David dans sa prière, qui ce Dieu accomplit des miracles et des prodiges en chassant les ténèbres, alléluia. Dans les actes des apôtres, il est dit ceci, que l'Église primitive priait pour qu'il y ait des miracles, pour qu'il y ait des prodiges dans l'Église. Lorsqu'ils ont été pris par les religieux, qu'ils ont été bousculés et qu'ils sont allés prier tous ensemble, ils ont élevé la voix vers le Seigneur, il est dit dans Actes 4 et au verset 30, ils vont prier afin que la main de Jésus, que la main de Dieu se pose pour faire des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom du Saint Serviteur Jésus, alléluia. Est-ce que tu pries pour qu'il y ait des miracles et des prodiges ? Allô ? Vous dormez ? Non, Dieu fait des miracles et des prodiges encore aujourd'hui, hein ? Et il faut prier pour cela. Il faut s'y attendre. Est-ce que tu vas prier pour que cet après-midi, le Seigneur étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges ? Où est-ce que tu vas venir, tu vas manger, tu vas prendre le barbecue, puis tu vas venir les bras croisés en disant « on va voir ce qui va se passer de plus à la réunion ». Non, il faut prier pour cela, parce que le Seigneur exauce la prière, alléluia. Vous savez, ce qui est intéressant de noter, c'est que Acte 4, verset 30, il prie pour cela, et il est dit que Acte 5, verset 12, Dieu va exaucer la prière. Il est dit à Acte 5, verset 12, « beaucoup de miracles ». Et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. En fait, il prie et la Bible dit que quelques versets plus loin, beaucoup de miracles et de prodiges se produisent. Est-ce qu'on voit beaucoup de miracles ? Vous savez, il y a des malades aussi au milieu de nous. Il y en a beaucoup, vous ne trouvez pas ? Alors, moi, j'aimerais que ça soit l'inverse. J'aimerais qu'il y ait moins de malades et plus de miracles et de prodiges. Eh bien, pour cela, il faut prier. Pour cela, il faut élever notre voix vers le Seigneur. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Et quand on dit « Seigneur, viens bénir, viens faire des miracles, viens confirmer ta parole, viens donner de l'assurance pour que ta parole soit confirmée par du surnaturel, parce que l'Église, si elle n'est pas surnaturelle, c'est un club ». C'est le club des gentils garçons et des gentilles filles qui aiment Jésus. Mais l'Église n'est pas un club. L'Église est une machine de guerre contre les ténèbres, contre le mensonge, contre les démons, contre la maladie, contre la pauvreté, contre les ténèbres. Alléluia. Est-ce que je prêche à des convaincus ? Il y en avait beaucoup des miracles et des prodiges. Et la Bible dit même, acte 6, verset 8, « Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. » Il y a miracles et miracles. Il y a des petits miracles et des grands miracles. Et ce qui est intéressant ici de noter dans la parole de Dieu, c'est que Étienne n'était pas un pasteur. Étienne n'était pas un serviteur de Dieu dans les termes où nous le comprenons aujourd'hui, faisant partie des cinq ministères dons. Étienne était un simple diacre, mais Étienne avait quelque chose. Étienne, ou plus exactement, avait quelqu'un. Il était rempli du Saint-Esprit. Et en fait, on ne peut pas vivre dans le surnaturel de Dieu. On ne peut pas vivre dans les miracles et les prodiges. On ne peut pas, on ne pourra pas voir beaucoup de signes, de prodiges et de miracles si on n'a pas dans notre vie la plénitude du Saint-Esprit. Mais gloire à Dieu, la Pentecôte vient. Amen. Je ne sais pas si tu as été baptisé du Saint-Esprit. Je ne sais pas si tu as reçu une flamme de feu dans ta vie. Mais je sais que quand le Saint-Esprit nous remplit, on entre dans le monde du surnaturel et dans le monde du tout est possible, alléluia. Et l'important n'est pas ce que tu es dans l'Église, l'important c'est que tu sois rempli du Saint-Esprit et qui que tu sois, tu peux exercer des dons de puissance, des dons de révélation, des dons de parole de sagesse, etc., etc. Amen, pasteur Yvan. Wow! Mais la Bible parle non seulement de beaucoup de miracles et de prodiges, de grands miracles accomplis par les uns et les autres, mais la Bible dit que Dieu, acte 19, verset 11, écoutez bien, Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Il y a des miracles qui peuvent être grands, mais il y a des miracles qui sont qualifiés d'extraordinaires. Des choses qu'on n'a jamais vues encore. Est-ce que vous aimeriez pas qu'on dise à l'église ciel ouvert, il y a des choses qui se passent. C'est pas des choses bizarres, c'est des miracles, alléluia. C'est des miracles, les malades sont guéris, il y a des choses étranges qui se passent, les démons sont chassés. Comment ? Par les mains de l'apôtre Paul. En fait, les mains de l'apôtre Paul, c'était des mains au service de Dieu. C'était des mains au service de sa génération. Et si nous consacrions nos mains pour les poser sur les malades, alléluia, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Combien de fois nous voyons dans la parole de Dieu l'apôtre Paul arriver quelque part, poser ses mains sur des malades et les malades être guéris. Oui ou non? Et pourtant, nous, on est là. On traîne la savate. La Bible dit, si quelqu'un parmi vous est malade, s'il souffre, qu'il appelle les anciens l'oindront d'huile en lui imposant les mains, et la prière de la foi sauvera le malade. Est-ce que vous le croyez, frères et sœurs? On a quelqu'un dans l'Église, on a le Saint-Esprit dans nos vies, on a la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante, elle est créatrice, et c'est le mal qui doit reculer quand nous proclamons le nom de Jésus. Amen. Dieu veut faire des choses qui nous bouleversent un peu. Voyez, dans les Actes des Apôtres, il est dit que c'était des hommes qui avaient bouleversé le monde. En fait, ce n'était pas l'Église qui était là, recroquevillée sur elle-même, en se disant « Seigneur Jésus, reviens vite parce que le monde est méchant, on a besoin d'être sauvés. » Non, les gars, ils en voulaient pour Dieu. Ils étaient inarrêtables. C'était des machines de guerre contre les ténèbres. Et partout où ils étaient, les ténèbres reculaient. Amen. Il y avait des choses étonnantes. Acte 19, verset 11. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Et certains d'entre nous, des fois, on est sous oppression des ténèbres. On est dépressif, on est malheureux, on est malheureuse, on est confus. On cherche sans jamais trouver. Moi, j'aimerais vous dire que dans les Actes des Apôtres, l'Église, elle est pleine d'assurance, elle est pleine de courage. Les serviteurs de Dieu sont heureux. La puissance de Dieu se manifeste. La grâce est au milieu d'eux et le royaume de Dieu avance. Et je déclare dans ce lieu, le royaume de Dieu va avancer, parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Toute arme forgée contre nous sera sans effet, et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, et on peut dire Amen. Wow! Ça fait du bien un peu de faire sortir le lion à l'intérieur. Vous savez, le lion de Judas, il y a le lion, le diable, il est comme un lion rugissant, mais le lion de Judas est avec nous. Et quand on proclame la gloire de Dieu, quand on chante les cantiques, quand on dit « Dieu, j'aime ton nom », le Seigneur se manifeste et il opère encore aujourd'hui des miracles et des prodiges. J'aimerais que tu puisses dire Amen, mais j'aimerais surtout que tu puisses le vivre, que Dieu nous fasse entrer après cette... J'allais dire un gros mot, et que Dieu nous fasse sortir après cette période épouvantable de Covid. Vous voyez, il ne faut pas toujours dire ce qu'on pense, il faut penser ce qu'on dit, surtout si tu es en prédication. Mais après cette période épouvantable, je proclame que dans ce lieu, des vies vont être transformées, des malades vont être guéris, le royaume de Dieu va avancer, les âmes vont être sauvées et Dieu sera glorifié. Nous avons un Dieu de miracles. Alléluia! Il faut des miracles pour libérer les âmes. Moïse a eu besoin de la puissance de Dieu. C'est à bras forts et à main étendue que le peuple a été libéré. C'est par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui que les hommes et les femmes seront libérés. Alléluia! Comment libérer nos enfants? Comment libérer nos familles? Comment libérer nos quartiers? Comment libérer nos voisins? Comment libérer nos collègues de travail? Par la puissance de Dieu dans notre vie. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et Dieu donne la puissance et la force. Dieu la donne. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois timoré, que tu sois tremblant, que tu sois toujours fatigué. Mes amis, la Pentecôte, ça change la vie. Le Saint-Esprit, ça change la vie, ça change le cœur, ça change les pensées, ça change le discours, ça donne la foi, ça donne le peps, alléluia. Je suis déjà dimanche prochain à la Pentecôte. Alléluia! Quel beau verset. En fait, dans la Bible, vous écouterez le premier message, mais dans la Bible, il y a de la bombe à tous les versets. Frères et sœurs, la Bible, il y a des bombes explosives, merveilleuses dans tous les versets. Donc, Dieu dit ceci, Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un nom et pour accomplir des miracles et des prodiges. N'oublions pas, frères et sœurs, que Dieu est un Dieu de surnaturel, un Dieu de miracles et de prodiges. Et ça serait bien que l'on prie pour cela, que l'on prie davantage pour cela, afin que par nos mains, des choses extraordinaires, pas seulement des bâtiments, mais des choses extraordinaires se réalisent par le pouvoir surnaturel de notre Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Lisons ensemble, si vous voulez bien. Je vais terminer avec vous dans une direction. Il est dit, verset 24, donc il prie, même verset 23, « Maintenant, ô Éternel, que la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison subsiste éternellement et agit selon ta parole. » 1 Chronique 17, verset 24, « Qu'elle subsiste afin que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise « L'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, est un Dieu pour Israël et que la maison de David, ton serviteur, soit affermie devant toi. » Oh, Dieu veut affermir nos voix, alléluia. Dieu veut nous rendre fermes aussi, frères et sœurs. Il veut nous rendre fermes et forts. Alléluia. Il est l'Éternel des armées. Verset 25. Car toi-même, ô mon Dieu, tu as révélé à ton serviteur que tu lui bâtirais une maison. C'est pourquoi ton serviteur a osé prier devant toi. Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car ce que tu bénis, ô Éternel, est béni pour l'éternité. Amen. Et il est dit, après cela, David battit les Philistins et les humilia, et il enleva de la main des Philistins Gath et les villes de son ressort. David reçoit une révélation merveilleuse. David réalise que Dieu, c'est le Dieu des miracles, le Dieu qui ne change pas. Il a osé prier son Dieu, il a osé élever sa voix vers le Seigneur. Il réalise que c'est une grâce que de pouvoir eh bien, être au bénéfice ainsi de révélation, de bénédiction, de génération en génération. Et David va demander à Dieu la bénédiction. Je ne sais pas si ça vous intéresse la bénédiction. Ça vous intéresse un peu ? Moi, ça m'intéresse la bénédiction, surtout la bénédiction du Seigneur. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ça ne veut pas dire que quand on est béni, après, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de combats et de luttes. Mais quand Dieu est béni, quand Dieu bénit à long terme. On n'a pas un Dieu qui bénit de façon passagère et il réclame sur lui la bénédiction. Et David a encore eh bien, des combats et des luttes. Il est dit après cela, après cette prière, David va battre les Philistins et les humilier. En fait, nous allons de bataille en bataille et de victoire en victoire. La volonté du Seigneur, frères et sœurs, c'est que nous soyons des victorieux dans cette vie. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vivions dans sa victoire. David a certes parfois connu des défaites quand lui-même n'était pas en règle avec le Seigneur. Mais David, d'une manière générale, est allé de victoire en victoire. Et Dieu désire, frères et sœurs, que nous soyons des plus que vainqueurs, alléluia. Que nous soyons victorieux dans cette vie, par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit, amen. Vous êtes d'accord ? David va assujettir son ennemi. Il va assujettir ses adversaires. L'Écriture dit, verset 2, il battit de 1 Chronique 18, il battit les Moabites et les Moabites furent assujettis à David. David avait le dessus sur le mal. Il a toujours eu le dessus sur les adversités. Et des fois, ce qui m'interpelle, c'est que c'est l'ennemi qui a le dessus. C'est l'ennemi qui prend le dessus sur ta vie, sur ma vie. Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons dominants et non dominés. Et malheureusement, des fois, nous sommes dominés par les ténèbres parce que nous sommes dominés par la chair. Vous voyez, il y a ce que la Bible appelle la chair et il faut la assujettir. Il faut la crucifier, il faut la maintenir en état d'échec. Parce que si la chair prend le dessus, alors nous serons vaincus. Nous ne serons pas vainqueurs. Nous ne pourrons pas triompher et aller de l'avant. Et la chair, c'est terrible quand on vit dans la chair. Les œuvres de la chair, c'est quelque chose de terrible. C'est les querelles, les jalousies, c'est toutes ces choses mauvaises qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et la Bible dit que si nous marchons selon l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons vainqueurs sur la chair, que nous assujettissions la chair. Paul disait, je traite durement mon corps. Il n'était pas tendre avec lui-même. Il était autodiscipliné. En fait, le Saint-Esprit veut produire en nous des fruits qui vont nous donner la maîtrise de nous-mêmes, la maîtrise de notre caractère, la maîtrise de ce qui n'est pas bon dans notre vie. Et David était un homme qui allait de victoire en victoire, qui était plus que vainqueur, alléluia. Et moi, je veux ce matin, cet après-midi ou ce midi, je ne sais pas comment il faut dire, j'aimerais que nous puissions vivre dans cette pleine victoire de la part de notre Seigneur, alléluia. Amen. Ô Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la faveur imméritée du Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous donne, tout ce que le Seigneur répand comme bénédiction, toutes les victoires que le Seigneur nous donne sont le résultat de la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, dans ce chapitre, il est dit concernant David, « Je ne lui retirerai point ma grâce, comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé, à Saül. » On sait que Saül a été rejeté. Saül a été rejeté parce qu'il a désobéi au Seigneur, parce qu'il s'est fait un monument, parce qu'il était orgueilleux, il était imbu de lui-même, à la différence de David. Vous écouterez tout à l'heure, si vous le voulez, bien sûr, le message sur l'humilité. David était un homme au cœur humble. Saül était un orgueilleux, imbu de sa personne. Et une des choses qui révélait que Saül était un orgueilleux, c'est que ce n'était pas un homme de prière, un homme de communion, d'intimité. Quand on lit les chroniques, même Samuel, on se rend compte que David, quand il va être intronisé roi, une des premières choses qu'il va faire, il va dire « il faut ramener l'arche à Jérusalem » parce qu'on ne s'en est pas occupé du temps de Saül. Il y a eu de la négligence par rapport à la recherche de la présence de Dieu. David aimait l'onction, la présence de Dieu. Et même quand il va pécher, il va dire « Seigneur, ne me retire pas ton Esprit Saint ». Et David vivait dans la grâce de Dieu. Et si Saül a perdu la grâce de Dieu, si Saül a été rejeté, et c'est terrible d'être rejeté, c'est terrible de perdre la faveur de Dieu. En ce qui concerne David, David est conscient, verset 26, on l'a lu, « Maintenant, ô Éternel, tu es Dieu, tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. » En fait, la source de la bénédiction dans notre vie, la source de tout dans notre vie, c'est la grâce. C'est la grâce. Je ne sais pas si vous aimez la grâce. David savait que sans la grâce, il était perdu. Tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Il savait que tout venait de la grâce de Dieu. Tout découle de la grâce de Dieu. Ce n'est pas par nos efforts ou par nos mérites ou parce qu'on est des bonnes personnes qu'on peut vivre dans la victoire. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres que l'on est béni. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous a bénis dans sa grâce. Et frères et sœurs, c'est important de rester attaché à la grâce de Dieu. C'est important de rester dans la grâce du Seigneur. C'est important de vivre au courant de la grâce, près des eaux de la grâce divine. Alléluia. Dieu veut nous bénir pour ce temps et pour l'éternité. Quand Dieu nous bénit, ce n'est pas des bénédictions passagères. Ce n'est pas pour un temps seulement, mais c'est pour l'éternité. On ne parle pas beaucoup de l'éternité dans l'Église des fois. Vous voyez, on est inscrit dans le temps, on est inscrit dans nos petites affaires passagères. Eh bien, c'est important aussi de regarder à l'éternité un petit peu. Dieu veut nous bénir jusqu'en vie éternelle. Est-ce que vous aspirez à l'éternité? Oui. Vous savez où vous allez aller dans l'éternité? Dans la présence de Jésus. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, on est inscrit dans le temps. Parfois, le temps, c'est long. Mais un jour, on sera hors du temps. On sera dans l'éternité. Et on sera béni pour l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! On est béni, frères et sœurs. On est vainqueurs. J'aimerais susciter ce matin dans notre cœur la foi. Qu'il y ait dans notre cœur la foi pour la bénédiction, la grâce pour nos maisons, la grâce pour notre vie, pour nous, pour tous ceux qui nous suivront. Alléluia. Et que nous allions de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur. On va demander à Dieu maintenant de bénir encore nos vies et nos cœurs. Seigneur, nous sommes là devant toi. Et Seigneur, tu veux bénir ton Église. Tu veux la bénir par la grâce et pour l'éternité. Seigneur, nous venons en tant que serviteurs et servantes de Dieu. Nous venons devant toi, Seigneur, pour, comme David, pour te louer pour tes merveilles, tes miracles, tes prodiges. Mais Seigneur, je te prie afin que cet après-midi ou ce midi, Seigneur, tu puisses te révéler aux âmes, tu puisses te révéler au cœur. Seigneur, on a besoin de ta révélation. Comme tu as révélé à ton serviteur la vision, tu veux révéler, Seigneur, encore à nos vies des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées à notre cœur. Seigneur, donne-nous de ne pas vivre que sur le terrain de la réflexion, que sur le terrain de l'imagination humaine. Mais donne-nous d'entrer dans le domaine de la révélation. Comme il est dit, Seigneur, dans ce texte, c'est toi-même, ô mon Dieu, qui as révélé à ton serviteur ces choses. Seigneur, c'est la révélation qui éclaire. Seigneur, je te prie que tu puisses donner à ton Église, à ton peuple, de nouvelles révélations, de nouvelles directions. Seigneur, nous avons besoin de ta lumière. Nous avons besoin de ta lampe intérieure. Viens révéler, Seigneur, encore tes desseins. Viens révéler encore tes plans d'avenir à ton Église. Tu veux, Seigneur, parler d'avenir. Tu veux nous projeter, Seigneur. Tu veux nous donner de la perspective. Seigneur, je te prie que le Saint-Esprit nous révèle de grandes choses. Alors que nous sommes peut-être ici, mais dans nos chambres, dans nos maisons, donne-nous d'entrer dans le domaine de la révélation. Donne-nous de pénétrer dans les sanctuaires de Dieu. Vous savez, David était un homme de révélation. Il vivait dans la grâce, dans la bénédiction, mais il vivait dans la révélation. Et peut-être qu'en ce moment, tu es comme Asaph. Asaph était un chantre de l'Éternel qui, à un moment donné, va être uniquement sur le terrain de la réflexion. Et il réfléchissait beaucoup intérieurement, il était en crise. Et pour sortir de la crise, il avait besoin d'autre chose que simplement le fait de réfléchir. Ce texte me vient quand il dit « Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, il cherche de la lumière, il cherche à comprendre. » Et il dit, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Et ce qui est beau chez David, c'est que Il vivait de révélation. Il vivait de communication divine. Il est question de vision dans ce texte. Nathan est venu avec une vision vers David. Il lui a rapporté la vision de Dieu. Et littéralement dans l'hébreu, c'est le chazon, la communication divine. Et mon ami, mon frère et ma sœur, ce matin, n'a pas simplement besoin de miracles et de grâces et de bénédictions. On a aussi besoin de révélation. On a besoin de lumière divine. Et vous savez, quand on entrait dans le sanctuaire, il y avait un chandelier. Et la seule lumière, ce n'était pas la lumière intellectuelle, c'était la lumière du Saint-Esprit. Et on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Mais gloire à Dieu, même quand des fois on est dans des turpitudes, dans l'amertume, dans la rancœur comme Asaph, qui venait à l'église, si je puis dire ainsi, qui chantait des cantiques, mais qui ne vivait plus rien à l'intérieur. Il était sec, il était mort. Pourtant, il dira, « Cependant, je suis toujours avec toi. Et tu m'as saisi par la main. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. » Et vous voyez, si David a été vainqueur, c'est non seulement parce qu'il était dans la grâce, parce qu'il était béni, mais c'est parce qu'il vivait de révélation. David ne se précipitait jamais. Il consultait tout le temps le Seigneur. Et il était attentif à la voix des pas du maître, même dans les cimes des mûriers. Et Dieu lui disait, « Quand tu entendras la voix de mes pas, « Vas-y, c'est moi qui marche devant toi. C'est le moment. Vas-y, fonce, je suis avec toi. » Mais vous voyez, frères et sœurs, tant qu'on n'a pas de révélation dans nos vies, on est des chrétiens charnels, intellectuels, mais il n'y a rien qui bouge de profond. Et il faut entrer dans les profondeurs de Dieu. Et c'est pour ça que Paul disait « je prie, afin que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur. » Qu'il y ait une lumière à l'intérieur, qu'il y ait quelque chose de nouveau, un souffle nouveau. Peut-être tu es en crise. Voyez, si David n'avait pas eu la vision de Dieu, il serait entré dans un projet qui n'était pas le sien. Et David n'était pas un mystique, mais David vivait des révélations de Dieu. Il vivait des visions de Dieu, des chazones de Dieu. Quand on a un chazon de Dieu, quand on a une parole de Dieu, on peut marcher sur les eaux. On peut faire face à la tempête. On peut faire face aux ténèbres. On peut faire face au mal, à Satan lui-même. Parce qu'on est animé par la révélation de Dieu, par la lumière du sanctuaire. Seigneur, ce matin, fais briller ta lumière. Par ta lumière, nous voyons. Et Jésus disait à une église, je termine, je te conseille d'acheter un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Peut-être que tu vois plus Dieu agir dans ta vie. Peut-être que tu vois que ta tristesse, tu broies du noir, tu es dans les ténèbres. Et la Bible parle de l'œil, de la lampe du corps. Et si l'œil est en mauvais état, tout ton corps est dans les ténèbres. Ce que Dieu veut, c'est que ton œil, ta conscience, ta vie intérieure soient à nouveau sensibles au Saint-Esprit, sensibles aux révélations de Dieu. Tu entendras la voix qui te dira « Marche-y ». Tu entendras la voix. Il y a des gens qui disent « J'entends pas Dieu me parler ». Dieu parle. Dieu dirige, Dieu nourrit, Dieu construit, Dieu a plein de choses à nous révéler. Vous savez, le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, ça veut dire révélation. Moi, je n'ai pas envie de prédication intellectuelle, je veux de la révélation. La révélation de la parole de Dieu, c'est ça. C'est ça le surnaturel de Dieu. Dieu veut ce matin du miracle, du prodige dans ta vie. Mais Dieu veut que tu entres dans une vie de révélation. Et c'est alors que tu seras béni. tu seras vainqueur. Il n'y aura plus de doute. Parce que quand tu as une révélation, la Bible dit quand il n'y a pas de chazon, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il est sans frein. Et il n'a plus que des paroles mortes, des paroles stériles. Mais les paroles de Dieu, elles donnent la vie et elles éclairent. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mes amis, nous sommes des pentecôtistes. La lettre tue, l'esprit vivifie. Ce matin, tu as besoin, j'ai besoin d'une nouvelle révélation. Seigneur, enlève le voile pour que je te voie assis sur ton trône. Seigneur est en contrôle. Alléluia. Il contrôle. Même si c'est le déluge, même si c'est la panique, il est sur son trône. La Bible dit que pendant le déluge, Dieu était sur son trône et il règne au siècle des siècles. Alléluia. Je veux entrer dans la révélation. Vous savez, moi je sais que ma conclusion est longue. On peut être à côté de quelqu'un qui voit rien, alors que nous, en ce moment, on voit les choses. Tu peux être à côté de quelqu'un qui sent rien parce que son nez est mort. C'est comme cet homme qui mangeait dans son repas au milieu des cadavres dans une morgue. Il avait perdu toute sensibilité. Voyez, quand Saul de Tarse, plus exactement, a vu Jésus sur le chemin de Damas, il est le seul à avoir vu cette grande lumière. Il est le seul à avoir été ébloui. Parce qu'il a une révélation de Jésus. Quand Étienne est sur le point d'être lapidé par les religieux de son temps, il est le seul. Il dit, je vois. Mais qu'est-ce que tu vois? Nous, moi, je vois que on va tous te lapider. Non, moi, je vois autre chose. Je vois le Seigneur debout à la droite de Dieu. Hallelujah. Je ne sais pas ce que tu vois, mais je sais que ce qui est important, c'est d'avoir une révélation. Il y a des bien-aimés, je le dis, tu cours plus. Il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de bénédictions, il n'y a plus de victoires, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tu ne vois plus Jésus. Parce que tu vois que tes problèmes, comme Pierre dans la tempête, il ne voyait que ses problèmes, que ses difficultés, que ses souffrances, que le vent et la mer, il ne voyait que ça. Et il a coulé. Il faut arrêter de regarder aux choses qui ne vont pas. Et il faut regarder au Seigneur. Alléluia! Est-ce que Dieu est grand? Est-ce que Dieu est puissant? Est-ce que Dieu est vivant? Est-ce que Jésus est ressuscité? Est-ce qu'il parle aujourd'hui? Est-ce qu'il fait des miracles aujourd'hui? Oui, il fait des miracles, il parle aujourd'hui et il se glorifie encore. Vous savez, quand il est dit, et je termine vraiment, de courir les yeux fixés sur Jésus, de rejeter le péché, tous les fardeaux que nous avons et les péchés qui nous enveloppent si facilement, et de courir. Comment est-ce qu'on peut courir dans la carrière de la foi? Comment est-ce qu'on peut courir comme tous les autres? En ayant les yeux fixés sur Jésus. Il faut regarder à Jésus. Et tant que tu regarderas Jésus, que tu auras une révélation de Jésus, tant que tu auras des chazones de Dieu, tu pourras servir le royaume. Vous savez, les pentecôtistes avaient des visions. Paul avait des visions. Paul a vu des anges. Paul a eu une vision d'un Macédonien. Les pentecôtistes, la Bible dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des... » Est-ce que tu vois la vision de Dieu? Est-ce que tu as la vision de Dieu? Tenez, je vais vous dire, est-ce que vous savez que le dimanche après-midi, c'est une vision de Dieu? Je ne fais pas ça pour faire plaisir aux gens, je le fais parce que c'est une vision de Dieu. Et Paul disait, je ne me suis pas opposé à la vision de Dieu. Mon frère, ma sœur, il faut rentrer dans la vision de Dieu. Il ne faut pas être là-bas quand Dieu est là-bas. Après, on se dit, il n'y a pas de miracle. Mais viens, prie, cherche la face de Dieu et entre dans la vision de Dieu. Sans vision, tu périras. Sans communication divine, tu périras. Tu auras une vie chrétienne intellectuelle, c'est tout. Mais il n'y aura pas de puissance dans ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est d'une vision fraîche de la part du Seigneur. Alléluia! Merci Seigneur pour les révélations que tu donnes. Alléluia! Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es un Dieu de miracles et de prodiges. Mais tu es un Dieu qui veut nous donner de vivre dans la victoire par des visions divines, par des visions nocturnes, par des visions spirituelles. Seigneur, je te prie de raviver les visions dans l'Église. Seigneur, il est dit à un moment donné que les visions n'étaient pas fréquentes. Eh bien, Seigneur, je te prie que tu puisses redonner de la clairvoyance, que nous soyons des voyants, que nous voyons clair ta parole, que nous voyons clair tes bénédictions, que nous voyons clair ta présence dans nos vies. Alléluia. Et Seigneur, s'il y avait des choses qui obstruent la vision, je te prie de balayer les nuages. Je te prie de balayer le négatif. Je te prie de balayer le mal. Et nous voulons être des hommes spirituels qui ont des yeux pour voir le monde invisible, pour voir que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Même si parfois on a l'impression que les choses ne bougent pas, en réalité, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Et Seigneur, je proclame que la vision de Dieu va s'accomplir. Je proclame que des vies vont être transformées, bénies, libérées dans le nom de Jésus. Je te prie de faire de nous un peuple visionnaire. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus. Et si vous êtes d'accord, vous dites Amen, vous acclamez Jésus, on se met debout dans sa présence et on dit Seigneur, on veut voir des miracles, Seigneur, on veut voir des visions pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen, Amen.